Je suis Christine Aquitaine et je suis infirmière clinicienne. Je travaille actuellement en équipe mobile de soins palliatifs au centre hospitalier de Versailles. Et je connais deux personnes qui ont travaillé au centre hospitalier de Versailles. Donc je suis très contente. C'est la première fois que je viens à une journée GBU Santé. Et j'avoue que je trouve le concept vraiment très intéressant et je vais en parler autour de moi parce que je trouve ça vraiment important. C'est très constructif, c'est très riche. Et merci pour l'invitation, Lucie. Alors, Lucie, il y a des personnes comme ça qui irradient. Lucie en fait partie. Voilà, j'ai eu la chance de connaître Lucie qui est venue faire un stage dans notre équipe mobile. Et ça a été un tournant dans sa vie d'urgentiste. Elle a décidé de travailler dans les soins palliatifs. Et ça a été une très belle expérience de travailler avec toi. Et ouais, j'apprécie toute l'humanité que tu mets dans ta pratique. C'est vraiment important. Moi, je suis tombée dans la marmite des soins palliatifs il y a 24 ans. Je cherchais du travail en France. J'avais fait ma scolarité, mon école d'infirmière en Suisse. En fait, je ne savais pas trop où je voulais travailler, mais il y a une valeur qui était très importante pour moi, c'est que je voulais garder l'approche globale de la personne. Donc, j'ai postulé à plein d'endroits. Et puis, un peu par hasard, j'ai postulé à Claire Demeure, dans une unité de soins palliatifs. Des amis m'en avaient parlé, ils avaient accompagné quelqu'un de leur entourage. Ils avaient trouvé l'accompagnement vraiment très, très, très riche là-bas. Donc j'y suis allée, j'ai eu un rendez-vous. À l'époque, on appelait ça les surveillantes générales. Et donc, sœur Nathanaël m'a reçue dans son bureau. Alors déjà, elle s'est assise à côté de moi et non pas en face de moi. Et on a échangé. Et j'ai accepté en fait de travailler comme infirmière à temps plein dans l'unité de soins palliatifs à Claire Demeure. Et elle m'a appris ensuite, elle n'avait pas encore mis l'annonce, mais elle avait l'intention de mettre l'annonce là pour un poste d'infirmière pour l'USP et qu'elle priait pour une infirmière chrétienne. Bon, le Seigneur fait bien les choses. Mais je me suis dit... je vais peut-être pas supporter, je vais être confrontée à la mort, c'est pas quelque chose, j'avais travaillé en médecine infectieuse, j'avais travaillé en Afrique, mais j'avais pas travaillé en soins palliatifs comme ça, donc je m'étais donné une porte de sortie, je me suis dit, si ça ne va pas, je partirai. J'y suis restée 10 ans, alors ponctuée de congé maternité, mais j'ai appris énormément de choses, on apprend beaucoup de choses des patients. Et en fait, on a une idée souvent un peu lugubre des soins palliatifs. Hein. Je vous dis, pour avoir plombé des soirées à plus d'une reprise quand quelqu'un me demandait ce que je faisais comme travail. Ah, tu travailles en soins palliatifs? Ah, quand même. Ça doit être dur. Ben, je peux vous dire qu'une unité de soins palliatifs, c'est un formidable lieu de vie. Et en soins palliatifs, on est dans la vie jusqu'au bout. Et ça a été évoqué, hein, cette notion de projet. Oui, c'est vrai qu'une personne qui sait qu'elle a une maladie grave, qui sait que ses jours sont comptés, eh ben, je crois qu'encore plus, elle a envie d'avoir des projets et de construire quelque chose, alors à plus ou moins long terme. Mais on est dans la vie. Et il y a une autre chose qui m'est très chère en travaillant en soins palliatifs, c'est les relations authentiques dans lesquelles on est. Il n'y a pas de place pour le superficiel, on ne va pas parler de la pluie et du beau temps. Non, parce qu'en fait, les personnes qui dans la vie desquelles la maladie fait effraction, c'est vraiment... C'est la vie bascule, hein, avec la maladie grave. Là, on ne parle pas de grippe ou de choses comme ça, mais une maladie grave, la vie, eh ben, on est dans des sujets qui les touchent. Et je trouve qu'on apprend énormément. Moi, je sais que j'ai des petites pépites comme ça, des paroles que des personnes, que des patients, hein, ont données. Et c'est vraiment... toute cette authenticité-là qui m'anime. Et j'estime que je n'ai pas du tout fait le tour encore, hein, 24 ans, mais j'apprends encore. Parce que je crois qu'on peut toujours faire mieux. Et je crois qu'on a toujours à apprendre. Et ça, c'est une autre chose, c'est que je crois que dans notre métier de soignant, il faut toujours qu'on se dise qu'on doit se remettre perpétuellement en question. Cette remise en question, là, à tout moment, ça va nous empêcher de devenir des robots, en quelque sorte, hein, et de déshumaniser nos soins. Et je crois que quand on se dit qu'on peut toujours faire mieux, qu'on peut toujours trouver quelque chose, inventer, réinventer les soins, parce qu'on est toujours face à des personnes dans toute leur singularité. On peut avoir deux personnes qui ont le même cancer, peut-être le même stade d'évolution, et pourtant, c'est deux parcours complètement différents. Et je crois que quand on garde en tête que chaque parcours est très singulier, très particulier, c'est vraiment important. Et il y a une autre chose aussi, c'est cette incertitude. Je crois que vraiment la médecine, en médecine, on est quand même dans la clinique de l'incertitude, et dans les soins palliatifs encore plus que jamais. Et même si on voulait essayer de prédire ou de prévoir les choses de façon précise, on se trompe. Alors, c'est vrai que c'est souvent la question qui revient, c'est souvent les familles qui posent la question, mais vous savez combien de temps? Et on peut tomber dans ce piège-là, dans ce travers-là. Ce serait dommage parce que souvent les gens, ils restent avec ça. Si on dit 15 jours, les 15 jours, ils sont gravés dans le marbre. Donc, évitons de tomber dans ce piège-là et de dire qu'on ne sait pas. Et c'est vrai, on ne sait pas. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et parfois, on se trompe dans le bon sens. On peut toujours être surpris. Et j'ai discuté avec Joël. C'est vrai qu'il y a tellement de nouvelles thérapeutiques. On est surpris des fois du changement, de l'évolution que prennent les choses. Alors, dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est vrai qu'un épisode aigu peut faire basculer les choses dans l'autre sens. Mais je crois que cette incertitude, elle nous préserve aussi. Et on doit rester dans cet esprit-là. Alors, je n'avais pas fait de formation avant de commencer en unité de soins palliatifs. J'en ai fait par la suite. Mais je crois qu'il y a deux choses préalables nécessaires. C'est d'une part d'avoir réfléchi à ses propres limites. Et puis la seconde, c'est d'avoir réfléchi aussi à sa propre mort. Parce que la mort de l'autre nous renvoie forcément à la nôtre. Et je crois que c'est deux choses importantes. Et pas que, avant de travailler en unité de soins palliatifs, je pense que pour tout soignant, c'est vraiment important de se poser ces questions-là. Je crois qu'on ne peut pas... Luc parlait d'acceptation. Je ne sais pas si on peut accepter la mort. Par contre... d'y réfléchir et d'y penser, hein, tout en sachant qu'on est toujours dans une sorte de va-et-vient, hein, de mouvement entre l'espoir et puis la réalité, la prise de conscience, la lucidité par rapport à ce qui nous est dit. Mais là aussi, c'est vraiment important de permettre à la personne d'avoir ses va-et-vient. Je me souviens d'une famille qui avait demandé à nous voir et qui nous avait dit, écoutez, il faut que l'épouse me dise, il faut que vous revoyiez mon mari, c'est pas possible, le médecin lui a annoncé qu'il arrêtait les traitements là, pour son cancer, et là il m'a demandé de lui ramener son catalogue de bricolage, il est en train de cocher tout ça, des commandes et tout ça, est-ce que vous pourriez aller le revoir? On va revoir le patient, non pas en lui disant pour quel motif on est simplement le rencontrer, et le patient avait tout à fait compris son diagnostic. Il avait compris que les traitements n'étaient plus efficaces, qu'ils avaient été arrêtés. Mais simplement, c'était un passionné de bricolage. Et pour lui, ben, dans la vie qui lui restait, ben, il était hors de question qu'il arrête de faire ses projets de bricolage. Il avait envie de faire cette cabane dans le jardin, donc il commandait les matériaux nécessaires pour cette cabane de jardin. Et c'était important pour lui, c'est vital pour lui. C'est pas parce qu'on dit à quelqu'un on va arrêter le traitement parce qu'il n'est plus efficace que la personne va commencer à peut-être commander son cercueil. On ne peut pas leur demander d'arrêter de vivre. Hein, et c'était décontenançant pour la famille, mais c'était tellement normal pour lui. Voilà. Et je crois qu'il faut soutenir cet espoir, pas l'alimenter hein, en lui promettant, voilà, vous allez peut-être même pouvoir construire votre résidence secondaire. Non, mais en tout cas, lui permettre d'avoir cet espoir. Mais il sait très bien, en fait, il est très lucide. On a des fois des familles qui nous disent « Ah, je crois qu'il ne se rend pas compte. » C'est son corps. Et je crois que on parlait de... Lucie, tu parlais de l'annonce. Je crois même qu'avant toute annonce, souvent le patient, c'est beaucoup de choses, en fait. Et ce que je trouve intéressant au moment de l'annonce, c'est peut-être justement de commencer à dire « Qu'est-ce que vous avez compris de ce qui vous arrive, là ?» Et quand on commence par ça, quand on commence par donner la parole à la personne, on se rend compte qu'il sait énormément de choses, en fait. Et qu'il a même imaginé peut-être ce qui pouvait lui être annoncé par la suite. Donc, je crois que c'est important de donner la parole, donner la parole à la personne qui vit les choses en première ligne, finalement.
Oui. Est-ce que vous abordez le fait que, par exemple, pour ce monsieur qui a son projet,
oui.
Le fait qu'il puisse... Enfin, moi, ce qui me... Je serais plutôt dans le sens, mais est-ce que tu vas arriver à la finir quand même?
Peu importe.
Est-ce que c'est pas... Enfin, parce que qui va la finir pour lui? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce qu'ils vont démonter? Enfin, moi, c'est...
Ouais.
C'est des...
La vraie.
Mon père, s'il fait ça, c'est pas pratique. Si tu la finis pas, comment c'est l'enfant?
Tu veux dire quelque chose?
Je trouve que c'est une bonne manière de suggérer que les directives anticipées, on peut les voir de façon différente, les remplir différemment.
C'est vrai. Mais je crois que l'important, il n'est pas tant dans le fait de pouvoir le faire ou pas, c'est que la personne ait la capacité de se projeter dans quelque chose. Ouais, avoir un objectif.
Nous, objectif raisonnable, enfin,
Après, c'est la personne peut se fixer des objectifs et puis parfois on se rend compte que ben, finalement, oui, moi je voulais aller en vacances l'année prochaine, ben, ça va peut-être pas être possible. Par contre, je vais être là pour la naissance de mon petit-fils. Et ça. Et ce sont les personnes qui fixent elles-mêmes les objectifs, les projets, et souvent, ben, ils se trompent pas. Et il y a même des projets qui peuvent être avancés. Moi, j'ai vu dans des services des mariages, voilà, se passer parce que c'était important pour eux. Des événements qui étaient un peu avancés aussi, où voilà, on essaye, comme tu disais, de tout faire pour qu'ils puissent y arriver. Parfois, ils n'y arrivent pas, mais je crois que c'est pas l'important. L'important, c'est d'être en mouvement vers et de les accompagner dans ça. Ouais, je crois qu'on est vraiment là pour les accompagner. Accompagner quelqu'un, c'est pas le précéder, c'est pas le suivre, c'est marcher à côté et le laisser nous montrer un petit peu le chemin qu'il prend et le suivre. Et en soins palliatifs, on est vraiment, on avance d'un jour à l'autre et même d'une heure à l'autre. C'est ce qui est difficile pour les familles dans leur question, combien de temps, docteur? Ils ont besoin de planifier, de prévoir. Alors on est obligé de dire, bah, écoutez, il va falloir qu'on voit un petit peu au jour le jour, et peut-être même, bah, on repassera cet après-midi, on verra comment ça se passe. On ne peut pas vous dire, mais par contre, si on sent que son état s'aggrave, on essaiera de vous prévenir. Parce que même ça, des fois, on ne peut pas. Et ça fait toute la nuance. D'impliquer la famille aussi dans ce qui se passe. Mais là, comment vous le trouvez, vous, aujourd'hui? Oh, ben là, il ne parle plus aujourd'hui. Hier, il me parlait encore. Là. D'accord. Parce que ça les aide à réaliser un petit peu où en est la personne. c'était intéressant, dans notre petit groupe, là, on parlait de certaines familles qui pouvaient parfois dire vous pouvez quand même pas le laisser souffrir comme ça. Et alors, on regarde, quand on regarde la personne soignée, elle est endormie, paisible, pas un pli, tranquille. Et on se rend compte que la souffrance, c'est la souffrance des proches. C'est insupportable pour eux, cette attente, de ne pas savoir combien de temps. Et en fait, nous, soignants, notre rôle, c'est peut-être d'essayer de leur redonner du sens, de les aider à retrouver du sens dans ce temps qui est long. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus la parole, une fois qu'il n'y a plus la communication verbale, mais c'est difficile pour eux de trouver du sens. Où il y a des familles qui viennent au repas pour faire manger la personne, et une fois que la personne ne mange plus, eh ben, pourquoi venir ? Donc à nous de les aider à trouver, à réinvestir. Moi, je suis très contente, il y a deux infirmières qui sont là. Et notre rôle, des fois, en tant qu'infirmière ou aide-soignante, c'est de les aider à retrouver du sens. Ben, vous savez, est-ce qu'il aimait les massages ? Ben, peut-être que vous pouvez le masser un peu. Et puis, c'est vrai qu'il ne parle pas, mais on part du principe que probablement qu'il vous entend et qu'il perçoit ce qui se passe autour et que votre voix lui est familière. Alors, parlez-lui, parce que de parler, ça fait autant de bien à la personne qui parle qu'à la personne qui entend. Il y a des choses qu'ils ont besoin de dire parfois. Et plutôt que de les laisser avec le regret de ne pas avoir pu le faire, eh ben, c'est l'occasion. Ou de participer, ben, écoutez, là c'est vrai qu'il a la bouche un peu sèche, vous pouvez de temps en temps lui humidifier un peu les lèvres. Je crois qu'on peut aussi les faire participer. Là je m'adresse plus aux infirmières qui sont là aujourd'hui, mais on a notre rôle à jouer, même si nous on ne peut pas trouver le sens de ce qui se passe à leur place. Mais c'est vrai que ce temps d'attente, il a un sens, peut-être parce qu'il y a besoin de temps pour assimiler les choses. Il y a besoin de temps, parfois, pour qu'un proche arrive aussi. Hein, on voit des fois des personnes qui attendent. Et on a l'impression que il faut que quelqu'un de la famille arrive. Et souvent, le décès a lieu peu après. Mais bon... Donc, avec tout ça, je m'éloigne de, de ce que je voulais dire. Il y a beaucoup de choses que je voudrais dire, mais surtout, n'hésitez pas à interrompre. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a la confrontation avec la mort, mais il y a la confrontation avec la souffrance. Et ça, c'est jamais anodin. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on banalise ou qu'on minimise cette souffrance à laquelle on est confronté. Ça peut être de la douleur, ça peut être des symptômes, mais c'est la souffrance psychologique aussi. Et puis, il y a celle du patient, mais il y a celle de ses proches. Et en tant que soignant, cette confrontation perpétuelle, quotidienne, ça entame. Et je crois qu'il faut, c'est pour ça que je disais, il faut réfléchir à ses limites. Et je crois qu'il faut vraiment travailler sur soi. Et pour prendre soin de l'autre, il faut prendre soin de soi. Donc, faites attention à vous. Et je crois qu'une des, il y a des manières aussi de peut-être d'avoir une routine de décompression. Je ne sais pas si après une grosse journée de travail, peut-être que c'est d'aller chanter à tue-tête dans votre voiture sur le trajet du retour. Une infirmière me disait, moi je vais claquer ma carte bleue quand la journée était trop difficile. Voilà, je vais à Parly 2 et ça fait un peu cher à la fin du mois, mais c'est une possibilité. J'avais une amie, alors elle adorait faire les confitures, donc je pense qu'elle avait beaucoup, beaucoup de pots de confiture. Mais c'est vrai qu'il y a besoin à un moment donné de se vider, parce qu'on accumule énormément de souffrances. Et puis une autre chose, c'est continuer à vous former. C'est formateur ces journées ici, mais il y a des formations qui sont possibles, et je crois qu'il faut vraiment éviter de rentrer dans une routine, et la formation, c'est un bon moyen de prévenir ça. J'ai eu l'occasion de faire une formation d'infirmière clinicienne, et j'étais très contente parce que j'allais pouvoir avoir des petites formations sur le raisonnement clinique, sur la relation d'aide, sur la prise en charge de la douleur, la gestion du stress, sur la relaxation, toutes ces choses qui étaient utiles. Donc moi, j'y allais pour acquérir des outils pour que je puisse utiliser dans mon quotidien. Et finalement, je me suis aperçue que j'ai fait beaucoup de découvertes sur moi-même pendant cette formation. Et c'est important parce que ça commence par soi. Et on a beaucoup travaillé sur les émotions. Et c'est important de pouvoir reconnaître ses propres émotions parce qu'on est confronté aux émotions de l'autre. Alors il faut travailler sur soi pour être à même de travailler avec la personne en face de nous. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez pendant le cursus en médecine. Mais je sais que l'école d'infirmières, en général, il y a quand même des choses de l'ordre des émotions. C'est peut-être pas la plus grande partie. Mais je crois que c'est vraiment important d'essayer d'identifier cela. Je vous donne un exemple. J'ai été appelée un jour en chirurgie pour une jeune patiente de 28 ans. Lorraine avait été diagnostiquée avec un cancer du côlon il y a 15 jours. Pourtant, elle avait des douleurs abdominales depuis longtemps, mais elle avait une colopathie. Et donc, les médecins n'y croyaient pas. Pas à 28 ans, on n'a pas un cancer à cet âge-là. Et elle avait eu des examens, mais qui n'avaient pas forcément été peut-être poussés. Bon, ils avaient vu quelque chose au poumon, mais ils se sont dit non, ça ne peut pas être des lésions secondaires. Et en fait, malheureusement, il y a eu un retard diagnostique. Donc, elle est entrée à l'hôpital avec un cancer, malheureusement, qui était déjà métastasé. Elle a dû être opérée. Et donc, après l'opération, elle se retrouve avec une colostomie. Bon, elle avait été préparée. Mais tout ça en 15 jours de temps. Et donc, cette jeune femme, elle commence à... par me dire bon je suis contente de vous voir, j'arrive pas à pleurer et je me dis il faudrait peut-être que ça sorte et elle commence à me raconter son histoire. J'aimerais juste vous dire là une petite parenthèse, l'écoute c'est thérapeutique, c'est un vrai traitement l'écoute. Et donc juste de s'asseoir à côté de quelqu'un et de laisser la personne dérouler le fil de son histoire, c'est thérapeutique. La personne en a besoin parce qu'elle s'écoute pendant qu'elle vous parle et elle fait des liens et elle se raconte. Voilà. Donc, elle me raconte ce retard dans le diagnostic, le fait qu'elle n'ait pas été crue, tout ce qui lui arrive, les annonces, les unes après les autres. Et puis, c'est injuste. Et je me disais, au fur et à mesure qu'elle me racontait, mais là, c'est pas de la tristesse en fait, elle voulait pleurer, mais c'est de la colère, hein, c'est de la colère qu'elle a, et de la colère justifiée. Et donc je dis, mais oui, c'est vrai que c'est, il y a de la colère dans ce que vous dites, et elle est justifiée. Je dis oui, elle est justifiée. Et vous savez que la colère, en fait, ça peut être un véritable moteur. Donc là, vous êtes encore en chirurgie, mais après, vous allez aller en oncologie et il y a un traitement qui va être proposé. Et les choses vont se faire petit à petit parce qu'elle commençait à se projeter. Je ne sais pas ce qui va m'arriver, cette maladie qui m'arrive. Et je crois qu'il faut ramener la personne un petit peu dans le moment. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et puis, on va poser des étapes petit à petit. Donc, le traitement va commencer. Et cette colère que vous avez, vous pouvez l'utiliser comme un véritable moteur. Et je peux vous dire que cette patiente a été remarquable dans sa manière d'affronter les choses les unes après les autres, dans son traitement, très très actrice et très active. On a fait le tour avec elle de tout ce qu'elle avait comme ressources, elle en avait énormément, son amie était très très soutenant pour elle, elle avait tout un groupe d'amis qui prenaient de ses nouvelles, qui faisaient des choses pour elle, elle faisait du scrapbooking, donc elle s'est lancée dans ça, elle avait énormément de ressources. Mais ce qui était important, probablement pour elle, c'est d'identifier aussi cette émotion qui était là. Et ce n'était pas forcément de la tristesse. Elle voulait pleurer, elle a pleuré un peu, mais finalement, après, la colère est sortie. Et de pouvoir l'identifier et de pouvoir en faire quelque chose, c'est vraiment important. Voilà. Donc, en fait, après mes 10 ans... Je reviens un petit peu à ma trame, mais si je ne la suis pas beaucoup. Après mes 10 ans en unité de soins palliatifs à Claire-Demeure, en face des franciscaines, j'avais ce besoin de peut-être transpirer un petit peu de tout ce que j'avais reçu. Vous savez, les unités de soins palliatifs, c'est un peu un monde idéal. Hein. On est un peu sous cloche. Tout le monde, enfin, tous ceux qui travaillent, ils travaillent par choix. Et il y a des temps interdisciplinaires très fréquents, des médecins qui sont très à l'écoute. Enfin, voilà, il y a toute une équipe qui travaille ensemble avec le projet, le bien-être, le confort de la personne. C'est très bien, mais les fins de vie, elles ont lieu beaucoup dans les autres services, dans les services où les personnes, les soignants n'ont pas forcément choisi d'accompagner les personnes en fin de vie. Et où la souffrance est là, ils n'ont pas forcément les moyens non plus. Et donc, je me suis tournée vers le travail en équipe mobile, d'abord à plaisir, 5 ans, et puis maintenant, ça fait 9 ans que je suis au centre hospitalier de Versailles. Et en fait, le but d'une équipe mobile, c'est de diffuser cette démarche palliative. Alors, on est en transversal sur l'ensemble des services. Et notre première mission, elle est d'être aux côtés des soignants. Et c'est-à-dire que les soignants dans les services sont en première ligne et nous, on est en seconde, mais on est là pour les soutenir, pour les écouter. Beaucoup, beaucoup d'écoute. Valoriser leur travail, parce que le travail fait dans les services est incroyable et n'est pas assez valorisé, gratifié. Et puis de proposer des temps de réunion où on débriefe, des réflexions éthiques, ou d'accompagner les soignants dans des soins qui sont difficiles, des pansements ou des soins douloureux. Donc voilà, on travaille auprès des soignants. Et puis, on est là aussi pour voir les patients et pour essayer d'évaluer tout ce qui est symptomatique. Je parlais de cette jeune patiente, là, Lorraine, jamais j'aurais pu aborder tout ça si elle avait été douloureuse. Une personne qui est douloureuse ou qui est nauséeuse ou qui est dans l'angoisse, on ne peut pas accéder à autre chose que simplement son symptôme qui l'envahit là sur le moment. Donc la priorité, pour nous en tout cas, c'est de soulager les symptômes. Et il y en a, et dès le début de la maladie grave. Donc c'est important de prendre ça en compte. Et puis il y a énormément de traitements possibles aujourd'hui. On a vraiment une grande marge de manœuvre. Et puis aussi prendre le temps avec les patients et puis avec les familles. L'autre axe de l'équipe mobile, en fait, donc ça c'est la clinique, mais c'est aussi la recherche. Il y a des soignants qui ont décidé il y a quelques années d'améliorer les soins de bouche dans les services. Alors ils avaient décidé ça lors d'une de nos formations et donc on a travaillé avec eux, qu'est-ce qui pourrait vous être utile. Et je peux vous dire qu'il y a un énorme travail qui a été fait et on voit les progrès. Ce sont des petites choses, hein. En soins palliatifs on travaille peut-être sur du détail, mais d'avoir une bouche propre, de pouvoir manger sans avoir une bouche douloureuse, une mycose qui altère le goût, eh bien, c'est essentiel. La bouche, c'est l'organe de la communication, c'est l'organe, on s'en sert pour respirer, pour manger, pour être en relation. Et donc, si on ne prend pas soin de ça, ben on passe à côté de quelque chose. Donc voilà, il y avait ce travail de recherche là autour des soins de bouche. Et puis l'autre axe sur lequel on travaille en équipe mobile, c'est la formation. La formation, elle est vraiment essentielle et donc on propose des sessions de formation sur 2 jours. On explique ce que c'est que les soins palliatifs, la loi sur la fin de vie qui est vraiment pas assez connue, hein. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Et puis sur les symptômes d'inconfort, l'accompagnement, etc. Et ces temps de formation, c'est vraiment des échanges sur les pratiques. Les gens viennent, il y a des fois 6-8 services représentés, et donc les soignants réalisent, ah ben tiens, ils ont les mêmes problématiques dans le service à côté. Ah ben, et ils échangent, et ils se nourrissent de la pratique des uns des autres. Et ça, c'est très important, parce que c'est comme ça qu'on avance. On disait avec Lucie, ce qu'on retient en général d'une formation, c'est ce qu'on a dit. Donc si on arrive à faire dire le message aux personnes qu'on a dans nos formations, ben, on a gagné. Donc, ces temps de formation, c'est vraiment important. Je voudrais dire quelque chose par rapport à... Alors là, j'en profite, hein, je fais... C'est pas de la publicité, mais les soins palliatifs, c'est vrai que souvent c'est connoté. Et on a souvent l'impression que la personne va entrer en soins palliatifs à un moment donné. C'est-à-dire qu'on oppose les soins curatifs aux soins palliatifs. Et alors nous, on essaie de lutter un petit peu contre cette idée-là, parce que les soins palliatifs, en fait, c'est tous les soins de confort, tout ce qu'on peut mettre en place pour la qualité de vie et le confort de la personne. Donc, si on part de ce principe-là, eh ben, ils peuvent apparaître dès l'annonce diagnostique, en fait. Et on peut des fois être amené à voir une personne qui vient d'avoir une annonce qui est difficile, où la famille s'est effondrée, la personne a besoin d'un soutien, ou alors il y a de la douleur peut-être, les traitements commencent, il y a des nausées qui sont là, et toutes ces petites choses viennent parasiter aussi, et c'est important de les prendre en charge. Je voudrais juste vous parler d'une étude qui a été faite aux États-Unis en 2010, sur 3 ans, qui s'appelle l'étude TEMEL. Et en fait, elle s'est intéressée à un groupe de patients qui avaient un cancer pulmonaire à un stade métastatique. Et donc, un groupe de patients avait tous les traitements anticancéreux classiques. L'autre groupe de patients avait les traitements anticancéreux. Et en plus, ils avaient une prise en charge palliative précoce. Et en fait, la conclusion de cette étude, ça a été que non seulement les patients qui bénéficiaient des deux avaient une meilleure qualité de vie, parce qu'au niveau des symptômes, il y avait des traitements qui étaient mis en place et tout ça, mais il y avait aussi plein de réflexions, de concertations pour savoir si le traitement n'était pas trop agressif. Donc arrêter les traitements suffisamment tôt, des fois on rend service, on peut tuer quelqu'un en donnant un traitement de trop aussi. Donc avoir toutes ces réflexions-là, donc il y avait une meilleure qualité de vie, mais ça donnait une plus longue espérance de vie aussi, d'à peu près 30%, ce qui n'est pas négligeable. Et tout ça pour dire qu'une prise en charge palliative précoce dans une maladie grave, elle a vraiment un intérêt pour la personne soignée et pour ses proches. Oui, bien sûr, vas-y. Colette.
Pour la perche, parce que justement, j'avais noté, parce que j'ai travaillé donc avec l'oncologue qui était très, très... reçu de cette oncologue, mais un jour j'ai une patiente qui est venue me voir, parce que maintenant je suis en ville,
ouais.
Quand j'étais à l'hôpital,
ouais.
Et elle m'a dit il n'y a plus rien à faire, l'oncologue, il n'y a plus rien à faire, donc sous-entendu il n'y a plus de chimiothérapie curative qui fonctionne, et elle était effondrée. En plus, bon, c'était une patiente à un de mes associés, il n'était pas là ce jour-là. Donc elle est venue me voir moi. Bon, je l'avais déjà vu autrement. Et donc, j'étais un peu déçue venant de la part de cette oncologue que j'apprécie énormément, qui est très humaine. Et je me suis dit, mais il n'y a pas de passerelle entre elle et le service de soins palliatifs qui est dans le service. Et heureusement pour elle, elle a été récupérée par un autre médecin qui fait des soins palliatifs dans le même service, et qui lui a dit qu'il y a toujours quelque chose à faire.
C'est vrai.
C'est cette patiente qui m'a donné le... Il y a toujours quelque chose à faire. Et la patiente, jusqu'à présent, elle va bien.
Ouais.
Elle est suivie par...
Ben voilà. C'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire. Quand on arrête un traitement spécifique, eh ben, c'est pas la fin de tout, justement. Et alors, c'est marrant que tu dises il n'y a plus rien à faire, parce que Thérèse Vanier, elle donne une définition des soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il y a à faire quand il n'y a plus rien à faire. Et il y a tellement de choses à faire. Je peux vous dire qu'en unité de soins palliatifs, j'ai jamais vu autant de soins techniques. Mais parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire pour améliorer la qualité de vie. Et je crois qu'il y a une chose qui est importante aussi, c'est de ne pas abandonner la personne. Et ce sentiment d'abandon qui peut être ressenti par la personne soignée, c'est terrible. C'est terrible. Enfin, il y a l'annonce, mais d'annoncer, ben écoutez, je ne vous revois plus, il n'y a plus rien à faire, c'est terrible. C'est terrible. Alors nous, on travaille avec des oncologues qui continuent à voir leurs patients, même s'il n'y a plus de traitement spécifique. Moi, je vois des patients, des fois en consultation avec l'oncologue, 8 ans après l'arrêt de traitement. Bon, et ça va bien. Et ils retrouvent une qualité de vie. Ce n'est pas parce qu'on arrête un traitement que tout s'arrête forcément. Parfois, mais parfois pas. Alors, je ne parle pas de la réanimation, hein. C'est différent parce que les soins, là, c'est des soins vitaux et voilà. Mais je trouve que c'est important de dire à la personne, alors on parlait de Didier Mayer, un des oncologues, pour avoir assisté à une de ses consultations, souvent il explique à la personne, écoutez, je pourrais vous proposer un autre traitement. Il y a quand même un risque de toxicité. Et je pourrais faire ça, ou alors on se dit, on arrête là au niveau du traitement, et puis on va faire des traitements, mais pour les symptômes. Voilà. Et ce n'est pas ne plus rien faire, c'est s'occuper des symptômes. Et en plus, il donne le choix à la personne, donc il la rend actrice aussi de la décision. Et souvent les personnes disent, oh, j'en peux plus de ces chimios, j'en peux plus de revenir toutes les semaines, et puis ça me fatigue. Et on voit hein, les patients à distance de l'arrêt des chimios qui récupèrent de l'énergie, qui récupèrent au niveau alimentation, qui retrouvent de la vitalité pour faire des choses, qui repartent dans des projets. Et parfois, ne pas faire la chimio, là, qu'on aurait, ben, c'est parfois leur rendre service. Donc, je pense que la notion de dire, vous n'allez pas être, je vais continuer, ou vous allez continuer à voir quelqu'un, c'est important. Donc, il a pu trouver un autre médecin, enfin, la personne
a... C'était dans le même service, ouais. Mais elle a pas fait, parce qu'elle est très à l'écoute. Mmh. Très, très à l'écoute, elle prend le temps avec des patients oncologues. Et justement, c'est, je pense que la chute a été brutale.
Ouais, ouais.
Entre, il n'y a plus rien à faire, et qu'elle n'allait plus la suivre.
Hein. Bah oui.
Et heureusement.
Ça faisait deux. En fait, ça fait deux annonces. C'est double peine.
Ouais. Mais en fait, c'est, je ne sais pas, il y a peut-être des services où rien se fait facilement, mais là, il n'y avait pas.
Ouais.
J'ai une petite question, en fait. Est-ce que les familles acceptent bien quand vous intervenez, en fait? Parce que moi, j'ai eu l'occasion, enfin, quand je suis à domicile, d'apporter des soins palliatifs. Mais je ne sais pas si vous arrivez à créer vraiment... Enfin, est-ce qu'elles acceptent bien? Est-ce que c'est authentique ou... Parce que j'ai l'impression que le fait que vous soyez... En fait, on a une relation avec le patient, et puis vous venez du coup par-dessus, et ça fait un triangle. Est-ce que ça vous...
Ça dépend. Alors, c'est bien que tu poses cette question-là, parce que j'allais y venir. On ne se présente pas comme équipe de soins palliatifs. Et ça, c'est un choix de notre équipe. On a vu que ça pouvait être tellement violent pour la personne. On n'est pas là pour rajouter encore de la violence à ce qu'ils vivent. Soins palliatifs, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est le confort. Donc, on explique ce qu'on fait. On est une équipe qui vient s'occuper, qui prend en charge tous les symptômes, qui s'occupe du confort et qui fait de l'accompagnement. Et donc, on explique ce qu'on fait et déjà, on n'aborde pas les choses soins palliatifs parce qu'il y a des personnes qui peuvent tout de suite soins palliatifs, ça y est, je suis sur mon lit de mort, c'est la fin. Voilà. Et c'est bien dommage parce que quand je vous disais que soins palliatifs ne sont pas opposés aux soins curatifs, ça, déjà, au niveau des soignants, ça ne se sait pas beaucoup. Mais alors, encore moins au niveau des patients. Donc, on a besoin de faire un travail un petit peu pédagogique à ce niveau-là. En anglais, c'est moins compliqué. Supportive care, ça passe mieux. Mais voilà, soins palliatifs. Donc, déjà ça. Et puis, parfois, on intervient dans des services. Si la relation de confiance est bien établie, on n'a pas besoin d'aller voir la personne. Ça peut être juste avoir un temps avec l'équipe, réfléchir, est-ce que Est-ce qu'il faut vraiment, par exemple en neurologie, on nous appelle souvent, est-ce qu'il faut qu'on pose une sonde nasogastrique pour réalimenter la personne parce qu'elle n'est plus capable de manger? C'est vraiment une question éthique. Mais on n'est pas forcément obligé de voir la personne, on n'est pas obligé forcément de voir les proches. Il se trouve que souvent, on est appelé pour des symptômes. Et là, on est obligé d'évaluer la personne. Mais souvent, ça passe bien parce que quand on se présente comme... On vient en plus de l'équipe, ils nous ont appelés, on s'occupe du confort et on aimerait voir avec vous qu'est-ce qui vous gêne en ce moment. Et au contraire, les personnes, quand il y a de la douleur, quand il y a des symptômes, ils sont plutôt contents de voir quelqu'un arriver qui va parler un petit peu de ce qui les gêne. Et pareil, on intervient souvent pour accompagner les familles et souvent les familles ont besoin d'un temps que les soignants ne peuvent pas donner. Donc voilà. Mais en pédiatrie, c'est assez rare qu'on voit les enfants parce qu'il y a un lien de confiance avec l'équipe en place. Donc on va prendre le temps avec les soignants. C'est peut-être difficile pour eux ou leur proposer des temps de formation, mais on n'est pas obligé. On ne veut pas être intrusif. C'est pas la peine de rajouter des intervenants. Si c'est pas nécessaire. Mais c'est une bonne question.
En général, vous intervenez en binôme ou à plusieurs?
Oui, on intervient souvent en binôme. Parce qu'on trouve que c'est intéressant, même si c'est peut-être une personne qui va mener plus la conversation. C'est intéressant, surtout la première fois, pour évaluer de façon très globale. Et puis, y a des fois, on est dans une discussion, puis l'autre personne va penser, ah tiens, peut-être que c'est important qu'on revienne sur ce sujet-là. Donc voilà, infirmière, psychologue, infirmière, médecin, médecin, psychologue, ça dépend. Et c'est important parce qu'on débriefe aussi entre nous. Et puis, je parlais de limites tout à l'heure, c'est vrai que si on voit, il y a une patiente, elle a des enfants du même âge que les miens, je ne vais pas y aller toute seule. Et ça fait partie aussi des limites que vous devez vous fixer. Il y a des petits signaux avertisseurs comme ça qui doivent retentir quand il y a des risques de projection. Forcément, il y a des projections. Elle ressemble tellement à ma grand-mère. Il a l'âge de mon fils. Et en fait, on se met des fois dans des situations compliquées. C'est important de dire, écoute, moi, je veux bien que tu viennes avec moi, là, je veux bien que tu m'accompagnes, parce que je sens que c'est difficile. Ou alors, en tant qu'infirmière, des fois, on peut plus facilement passer la main et dire, là, c'est vrai que je m'en suis occupée la semaine dernière, c'est un peu compliqué pour moi. Est-ce que tu veux bien qu'on change de côté ou, c'est vraiment important pour tenir, parce que c'est vrai que c'est l'accumulation de ces souffrances, et surtout quand il y a de la projection, c'est difficile, on se prend les choses de pleine face, et puis de pouvoir partager après, parce que ça répartit un peu la charge quand on partage après. Oui.
Est-ce que tu peux nous dire comment ta foi t'aide ou te dessert dans ce travail?
Ouais. Alors c'est vrai, je me suis pas mal posé la question quand Lucie m'a demandé d'intervenir. Et j'ai, en travaillant 10 ans à Claire Demeure, donc c'était tenu par les diaconesses de Reuilly, donc et on sait de toute façon en soins palliatifs que la dimension spirituelle est très importante. Mais là, avec la communauté protestante, les gens savaient déjà qu'il y avait une dimension spirituelle qui était là. Alors dans chaque chambre, il y avait une éphéméride, là, les petits calendriers avec un verset. C'était affiché. Et donc, je pouvais parfois me saisir d'une opportunité. Le verset d'aujourd'hui, vous l'avez lu, ou quelqu'un avait une Bible sur sa table de nuit, vous lisez la Bible. Et j'avais parfois l'occasion de non pas de partager ma foi, mais en tout cas de permettre à la personne de partager sa foi, si elle le souhaitait. Je me souviens d'un patient qui était très angoissé. Il avait les anxiolytiques nécessaires pour ça, mais malgré tout, il était angoissé. Et en fait, il avait sa Bible à côté de lui. Je lui ai proposé de lire un psaume. Et c'est vrai que ça lui avait fait du bien. Mais ça, je pouvais le faire à Claire Demeure. Je ne peux pas le faire à Mignot ou à Richaud, sur les deux hôpitaux sur lesquels on travaille. Mais je suis intimement convaincue que Dieu est capable de transmettre de son amour, de sa bienveillance et de sa grâce à travers nous. à travers notre comportement, notre attitude. Je crois que quand on écoute la personne, qu'on la respecte, qu'on la considère, c'est déjà une grande part. Je crois aussi que Dieu étant souverain et il attire qui il veut à lui, j'aime à penser qu'on est un petit maillon dans une grande, grande chaîne et qu'il n'y a pas que nous. La personne a peut-être déjà eu d'autres occasions. Il y a des gens qui viennent rendre visite, peut-être qui ont un bouquin ou une Bible ou qui vont parler de leur foi. Enfin, on a un Dieu qui est très, très créatif et inventif et qui sait aussi se servir de tous les moyens possibles. Donc, il n'y a pas que nous. Et je crois aussi que quand ça a été semé à un moment donné, Dieu peut les faire germer quand il les faire croître quand il le souhaite. Et ça, ça m'aide. Et la troisième chose, c'est que je prie. Je prie beaucoup pour mes patients. Et on ne sait pas ce qui se passe. Ça fait partie du mystère. Hein. On ne sait pas ce qui se passe entre eux et Dieu. Lui le sait. Et ça, c'est l'important. Eux le savent aussi. Ouais, je lui fais confiance pour ça. Par contre, je lui demande de m'aider à bien jouer ma part et à être un canal de son amour et de sa grâce au quotidien. Mais ma foi m'aide beaucoup. C'est vrai qu'on, face à la souffrance de savoir que nous, on a un Père à qui s'adresser et auprès de qui on peut venir. Et c'est vrai que des fois, je me dis, mais cette personne, elle a tellement besoin de Dieu. Mais bon, je peux au moins crier à lui pour que lui fasse quelque chose. Ouais. Et j'aimerais, juste pour rajouter à ça, parler un petit peu de la dignité. La dignité, c'est quelque chose qui est propre à chaque individu. Que ce soit le nouveau-né, hein, tout rose, tout beau, qui vient de naître. Que ce soit la personne... âgé, grabataire, qui a peut-être des escarres, ils sont dotés de la même dignité. C'est quelque chose qui est intrinsèque à l'être humain. Mais par mon regard, par ma façon de considérer l'autre, je peux augmenter son sentiment de dignité ou je peux le diminuer. Et ça, je trouve que notre responsabilité de soignant, elle est là. De toujours tendre vers le fait d'augmenter le sentiment de dignité de l'autre. Et quand je me mets à la hauteur de la personne, que je la regarde dans les yeux, que je ne la vois pas juste comme un corps décharné ou malade, eh bien j'augmente son sentiment de dignité et je lui dis, je suis là pour vous et vous êtes une personne à part entière et vous valez la peine qu'on s'occupe de vous. Et ça pour moi c'est important. Je ne sais pas si j'aimerais peut-être. Je pense que j'ai plus beaucoup de temps. Hein. j'aimerais peut-être juste avant de terminer parler aussi de. Du besoin de mettre du sens dans ce qu'on fait. Et en tant que soignant, quand il y a une perte de sens, il y a un risque de déshumanisation. Et donc, on a besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Je me rappelle d'une réunion en hémato-onco et on avait pris ce temps avec l'équipe soignante et puis les internes avaient voulu rester. Et donc, l'infirmière disait je comprends pas, j'ai dû faire un bilan sanguin à cette personne, je savais qu'elle était en fin de vie, j'ai dû la piquer une fois, deux fois, c'était insupportable, je savais qu'avec le garrot je lui faisais mal et je me demande pourquoi je fais... l'interne était là, elle s'adressait aussi à lui, je comprends pas pourquoi je dois faire ces choses là et l'interne avait dit c'est vrai que moi c'est facile. Je remplis des bons, je coche les cases parce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe et tout ça. Mais je ne suis pas là à mettre le garrot, à piquer, à voir que la personne grimace quand je le fais. Et il s'est rendu compte que oui, c'est une chose de prescrire un bilan, c'est autre chose que de le faire. Et je crois que nous, soignants, et nous, les infirmières, les aides-soignantes, il faut qu'on questionne. Il faut qu'on... Pourquoi tu veux faire un bilan? Est-ce que tu as besoin de quelque chose en particulier? Est-ce qu'on va faire quelque chose derrière? Et c'est vrai que le besoin de savoir quelle est la finalité de ce qu'on va faire, et dans tout soin, hein, pourquoi je fais cette toilette de la tête aux pieds? Je sais que la personne n'est pas confortable, je sais que la famille arrive, qu'elle est très fragile, peut-être que je vais juste la rafraîchir un peu et ne pas trop la mobiliser. Et voilà, et réfléchir à ce qu'on fait et au sens de ce qu'on fait, c'est vraiment important. Et se questionner et questionner l'autre. Et ce même sens, ben, il est très important chez la personne. Et souvent, le patient, il se pose ces questions-là. Je pense à un patient que j'ai vu cette semaine avec ma collègue psychologue. La semaine d'avant, il nous parlait de cette douleur qu'il ressentait au niveau du côté. Alors, ce patient lui avait trouvé des cellules tumorales au niveau de l'estomac et au niveau du poumon. Donc, double annonce. Il avait déjà vu le gastro-entérologue qui lui avait parlé d'une tumeur au niveau de l'estomac. Et puis, il pensait que les douleurs étaient peut-être liées à une infection du poumon, mais en fait, ils avaient trouvé un nodule. Donc, c'était probablement un autre cancer. Et ce patient nous parlait de cette douleur, je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est peut-être l'infection, je ne sais pas. Et ce même jour, il voyait le pneumologue qui lui a expliqué qu'en fait, le nodule était en fait le primitif, hein, et qu'il avait des métastases au niveau de l'estomac. Et quand on l'a revu la semaine d'après, le patient, ben, on l'a trouvé... il avait eu quand même cette annonce difficile, hein, c'était beaucoup de choses qui lui tombaient dessus, mais il comprenait pourquoi il avait mal. Et il dit, maintenant je comprends pourquoi j'ai mal. Et il avait un traitement antalgique, il avait quelque chose qui pouvait le soulager, mais de comprendre ce qui lui arrive et pourquoi, c'était vraiment important pour lui. Et puis il savait qu'il allait avoir un traitement et que les choses allaient se mettre en place, et c'était beaucoup plus rassurant pour lui que d'être là à ne pas savoir et d'être dans ce moment d'attente. Vous savez, l'attente diagnostique, elle est des fois très longue, c'est interminable d'attendre des biopsies, et les patients sont là et ils ne savent pas ce qu'on va leur annoncer. Ils savent qu'il y a quelque chose de grave, et parfois c'est pire ce moment-là qu'après, finalement. C'est voilà.
En fait, on pourrait passer des heures.
Non, 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 moi j'ai terminé.
Je suis censée être la présidente, je ne vais pas regarder.